Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et nous sommes de retour, un grand bonjour à toutes et à tous. Très 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 heureux bien sûr de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous tech, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur la chaîne YouTube de Tech & Co, mais aussi en podcast, audio, en replay, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. C'est parti pour De quoi je me mêle, avec pour cette petite heure dédiée à la tech, tout à l'heure, Lionel Costa, qui est le responsable du développement du Labo Fnac, sera à mes côtés, et avec lui, on va se replonger dans un produit iconique des années 90 et 2000 et qui revient, c'est la mini-chaîne. Et oui, on recommence à retrouver dans les magasins des mini-chaînes. Alors, comment ont évolué ce type de produits? Évidemment, ils se sont customisés avec de la tech, du streaming. On peut même connecter un NAS, par exemple, maintenant aux mini-chaînes. Et puis, bien évidemment, le DAB, etc. On en parlera. Et puis, il y aura la sélection aussi du Labo Fnac. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous laisser des petits messages avec le hashtag DQJMM et nous suivre sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour commencer avec Nicolas Lelouch. Salut Nico.
Salut tout le monde.
Ravi de te retrouver Nicolas. On ne se quitte plus?
Non, décidément, entre le CES, entre la fin d'année, on est
voilà, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir dans le plateau de quoi je me mêle. Nicolas, qui, rappelons-le, est journaliste donc à Numérama. Mm-hmm. Et en plus, la petite actu, c'est que vous lancez votre chaîne Twitch, Numérama.
Oui, c'est tout récent, on s'est lancé cette semaine. Et donc l'idée, c'est de jouer, de discuter avec les gens. On se lance dans l'aventure Twitch sur Numérama. Donc c'est notre petite actu du moment.
Bon, très bien. Bon, on va aller voir un petit peu. Je vais te surveiller sur la chaîne Twitch.
Pas de souci, bah, tu me diras si je suis bien.
L'actualité qu'on va voir avec vous de cette semaine, évidemment beaucoup de choses, hein, des choses positives, des choses négatives aussi. Il y a des services qui vont disparaître.
Oui.
On va en parler dans quelques instants, mais pour débuter, ça vient de tomber. Apple a dégainé, sans crier gare, en fait, un petit communiqué de presse en annonçant de nouveaux produits et notamment de nouveaux MacBook, Nico.
Oui, et c'est rare en fait pour Apple. Si on regarde un petit peu le calendrier d'Apple historiquement, pendant longtemps, il y avait des annonces en janvier. Il y avait la conférence Macworld qui a eu lieu à Paris d'ailleurs à une certaine époque.
Ouais. Où Steve Jobs faisait le déplacement d'ailleurs à l'époque.
Steve Jobs faisait le déplacement. Après, ça s'est déplacé à San Francisco. Et les conférences Macworld se sont arrêtées en 2009. En 2007, il y a l'iPhone, c'est lors d'une Macworld. Et après 2009, la dernière conférence en janvier d'Apple, c'est 2010, c'est l'iPad. Et depuis, plus rien. Apple a toujours attendu le printemps, pour des raisons fiscales notamment, parce que ça arrange de faire des annonces après les annonces du trimestre de Noël. Mm-hmm. Et donc, on a toujours un janvier et février qui sont
très, mou
très, très, très mou sur Apple. On n'entend pas vraiment de nouveautés. Il y a quelques mises à jour logicielles et puis c'est tout. Et là, c'est le retour des annonces en janvier. Est-ce que c'est parti pour durer? On verra. Mais en tout cas, il y a eu par communiqué de presse, notamment l'annonce des nouveaux MacBook Pro. C'est pas les annonces les plus excitantes qu'on a pu voir chez Apple. Hein. L'idée, hein, c'est que on a déjà eu des renouvellements il y a 2 ans quand Apple a lancé les premières puces M1. Il y a eu des changements de design, il y a eu des montants en puissance, il y a eu l'arrivée de plein de nouvelles fonctions. Là, on améliore le tout. Donc, il y a 2 nouvelles puces, M2 Pro et M2 Max. Donc évidemment, c'est les évolutions de la puce M2 du MacBook Air. C'est toujours des puces super puissantes qui, à mon avis, pour 90% des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent actuellement, ne servent à rien. Parce que la puce M2 est largement suffisante pour faire tout ce dont on a besoin sur le marché. Maintenant, voilà, on a des ordinateurs un petit peu plus puissants. On a l'arrivée du Wi-Fi 6E, qui est peut-être pour moi la nouveauté majeure de ces produits.
Oui. Il était temps, hein, j'ai envie
Apple
de dire.
Apple était un peu à la traîne là-dessus. L'iPad Pro l'a eu en premier.
Oui.
Mais bon, l'iPad, c'est pas un ordinateur.
Ben
on doit envoyer des fichiers de 300-400 gigas en Wi-Fi parce qu'on est en déplacement, par exemple, sur un salon comme le CES au hasard. Bah, le Wi-Fi 6E, ça peut être pas mal quand on a un routeur compatible.
Mais encore faut-il que les routeurs soient compatibles.
Oui, il faut
toute la chaîne en fait du Wi-Fi soit Wi-Fi 6E.
En tout cas, c'est vrai que la nouveauté, c'est Wi-Fi 6E sur des Macs.
Alors qu'après que les iPhones ne sont pas encore Wi-Fi 6, alors que le Samsung S22 l'est.
Je crois que le S21 Ultra.
Peut-être même le S21 Ultra.
Sur l'univers Android est passé Wi-Fi 6 il y a environ 2 ans et Apple commence à le faire depuis la fin d'année dernière. Donc je pense que ça arrivera sur les iPhones en fin d'année. C'est en tout cas un bon signe. Mais bon, c'est des Macs qui coûtent super cher. Il faut compter plus de 2000 euros au minimum.
Oui, parce qu'au passage, il y a eu un petit réajustement tarifaire. Oui. Pas en notre faveur, on va dire.
Oui, alors c'est marrant. C'est qu'on voit qu'Apple a quand même un certain contrôle de ces augmentations tarifaires et que, contrairement à ce qu'ils laissent supposer, ce n'est pas juste une question d'inflation et d'équivalence euro-dollar. Eux disent que c'est l'économie qui les force à monter les prix. Donc du coup, là, les Mac prennent entre 150 et 250 euros. Ils ont même été sacrément vaches parce qu'ils ont augmenté de 100 euros le prix de l'iMac qui n'a pas été mis à jour depuis 2 ans quand même. Donc l'iMac, c'est tout sauf un bon produit à acheter en 2023.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le même qu'il y a 2 ans et il prend 100 euros au passage.
Exactement, en fait. Toujours la puce à main. Donc ça augmente comme ça graphiquement. Mais paradoxalement, le Mac Mini, qui sans doute ne se vendait pas assez, lui a une baisse de prix. Il perd 100 euros avec...
Pour le pousser, en fait.
Il passe de la puce M1 à la puce M2, donc c'est mieux. Mmh. Il gagne le Wi-Fi 6E, donc là aussi c'est mieux. Mais par contre, là, on a un prix d'appel en dessous des 700 euros, ce qui est quand même hyper compétitif pour un ordinateur de ce genre, pour bien débuter si on a besoin d'un Mac pour travailler. Donc c'est la preuve qu'Apple a quand même une certaine flexibilité sur ses prix. De la même manière que l'Apple TV, c'était pareil. Elle a baissé de prix alors que tout le reste a augmenté.
Nico, à qui s'adressent ces nouvelles machines, en fait voilà, est-ce que ça vaut le coup de s'y pencher si on a envie de s'acheter un MacBook, par exemple, ou pas?
Ça s'adresse d'une certaine manière au grand public parce que c'est les meilleurs MacBooks sur le marché. Donc on sait que les gens qui sont fans de nouvelles technologies, même s'ils n'ont pas besoin de la puissance de la puce M2, bah ils vont peut-être vouloir celui-là plutôt que le MacBook Air parce qu'il a un écran mini LED, parce qu'il a un écran 120 Hz, parce qu'il a plus de ports que les autres. Donc automatiquement, ce MacBook Pro s'adresse à tout le monde parce qu'Apple est une marque si grand public que c'est une marque qui va forcément intéresser, même si elle a des produits qui se destinent officiellement aux professionnels. Maintenant, en termes d'usage, ils vont se destiner peut-être à 2 cibles, le monde de la vidéo et de la photo, donc les créatifs qui vont avoir besoin d'avoir des grosses chaînes de production en 8K, plusieurs timelines, avec besoin de beaucoup de bandes passantes, de mémoire vive, etc. Et ils vont se destiner aux développeurs qui, eux aussi, ont souvent besoin de beaucoup de puissance d'exécution.
La différence de tarif entre la M1 et la M2 se justifie ou pas ? Moi, j'achète un MacBook pour bosser. Alors, je ne suis pas un créatif, je ne fais pas du montage vidéo en 8K... Et je vais avoir les usages d'un Mac de manière traditionnelle. Ça vaut le coup de dépenser un petit peu plus pour avoir le M2 ?
Si on fait la différence...
Quel processeur, rappelons-le, on parle de ça comme si on était...
Oui, on va plutôt prendre la comparaison entre le MacBook Air M2 et ce MacBook Pro M2 Pro. Je pense que c'est le meilleur moyen. Il y a à peu près 600-700 euros d'écart sur ces produits-là. Les 600 euros, 700 euros d'écart, si on en a vraiment besoin, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de grosses timelines, ça les vaut absolument. Si on veut avoir un usage, bon, moi j'ai un MacBook Air M2, j'ai fait du montage vidéo CES dessus, il n'a jamais eu de problème, ça passe très bien. Donc je pense que ça suffit la puce M2, voire la puce M1 si on prend un produit en reconditionné les 3/4 du temps. Maintenant, pour passer à cet écran-là, qui est pour moi le meilleur sur un ordinateur portable, en tout cas sur les Mac en ce moment, oui, ça peut les valoir. Maintenant, faut pas se dire que c'est un achat impératif. La puce M1 sont largement...
Après, tout dépend des promos. Parfois, on peut avoir de bonnes...
Il peut y avoir de bonnes promos. Le reconditionné, il y a aussi un bon plan. Peut-être, c'est peut-être la meilleure offre actuellement. C'est les MacBook Pro M1 Pro sortis il y a 1 an et demi.
C'est ça.
Parce qu'eux sont soldés par Apple en reconditionné. On peut imaginer que la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon se débarrassent du stock assez vite.
Donc, et là, on peut peut-être
avoir un tarif quasiment équivalent au MacBook Air 9 chez Apple.
C'est ça.
Alors qu'on va avoir l'écran mini LED et la puce M1 Pro qui n'a pas grand chose à envier à la puce M2.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, évidemment, il y a de la différence de puissance entre la M2 Pro et la M1 Pro, mais pour le kidage, finalement,
c'est quasiment
vous ne sentirez quasiment
Apple
pas.
Apple dit 20% au mieux, mais 20% au mieux, ça représente rien. Surtout sur ces puces-là qui sont inépuisables.
Puisqu'on est dans le monde d'Apple, on y reste avec un anniversaire. Nicolas, on fête les 15 ans d'un ordi qui, moi, à l'époque, m'avait complètement bluffé. C'était le MacBook Air, qui était une espèce de performance, de prouesse technologique à l'époque, incroyable.
C'était une prouesse au départ, le MacBook Air. Il a été annoncé en janvier 2008, donc lui aussi, c'était une annonce de janvier. C'est, en quelque sorte, c'est MacBook Pro sans son successeur. Quand il a annoncé le MacBook Air, c'est un produit assez bizarre parce qu'il est super fin, c'est vrai. C'est une vraie démonstration technologique, mais il est pas mal critiqué parce qu'il coûte cher. Il coûte plus de 1 700 euros et surtout, il n'y a pas de lecteur DVD. Et à l'époque, ça, alors c'est le drame. On dit Apple a sorti un ordinateur sans lecteur DVD. Apple est complètement fou, ça ne marchera jamais. On n'a pas tellement tort au début, parce que le MacBook Air, ça met du temps à s'imposer. C'est un produit qui plaît aux geeks, mais qui ne plaît pas tellement vraiment au grand public. Il est trop cher. À l'époque, il y a aussi le MacBook blanc.
Parce que rappelons que c'était la finesse, la légèreté, l'autonomie, étaient déjà un peu les trois killer apps.
Cette machine. C'était clairement le but, mais il y avait une erreur de positionnement.
Oui.
C'est que finalement, c'était un Mac qui était moins compétent que le MacBook Pro ou que le MacBook blanc, mais qui coûtait plus cher. Automatiquement, ça marchait moins bien.
C'était une super machine à écrire, quoi.
Exactement. Et il a fallu attendre 2010 et le deuxième design du MacBook Air, celui qui est le plus connu, hein, celui qui est gris, celui qui est un petit peu, vous savez, en V.
Oui.
C'est qu'il est plus épais au niveau de l'écran et il est super fin au niveau du clavier. Bah, c'est ce design-là qui fait décoller le MacBook Air. Aussi le prix. À ce moment-là, le MacBook Air, il passe autour des 900 000 euros
et là,
sur le 11 pouces. Ça devient l'entrée de gamme chez Apple. Ça tue le MacBook blanc au passage. Et le MacBook Air est un produit sans doute iconique d'Apple qui a eu le droit à un petit rafraîchissement bien sympathique en 2022.
Ouais. Tiens, puisqu'on commence cette année 2023, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on attend d'Apple pour cette année? Bon, alors évidemment, il y aura de nouveaux iPhones. Il y aura l'iPhone 15, sans doute. Hein, voilà.
On passe peut-être au 16 directement.
peut-être, mais sans doute avec un nouveau design. Hein, si on suit la chronologie des sorties des iPhones, on devrait avoir quelque chose de nouveau.
Normalement, oui.
Cette année, est-ce qu'il y aura des innovations intéressantes? Ça, c'est la première question. On parle aussi de ce masque de réalité augmentée. Voilà. Encore une fois, il y a des sources bien informées qui nous disent que tout ça, c'est dans les starting blocks. Ça va être intéressant de voir si effectivement Apple, en 2023, va sortir un produit totalement nouveau de sa gamme, en quelque sorte.
C'est possible. Bah, on parle d'une année 2023 chez Apple qui sera, pardonnez-moi le mot, chiant.
C'est vrai?
Oui, c'est ce que dit en tout cas par exemple Mark Gurman, Ming-Chi Kuo, tous les analystes qui sont hyper bien informés sur Apple disent que cette année ça va être que des mises à jour façon MacBook Pro, c'est-à-dire des augmentations de puces, mais on garde la même chose.
Il n'y aura pas de
nouveaux iPad a priori en 2023, ou alors on passera de la puce A15 à la A16, donc ça va être assez lent. Il n'y a que les iPhones qui sont intéressants en effet, parce que c'est une nouvelle année avec un nouveau design. On parle de l'arrivée d'un zoom périscopique comme chez Samsung, donc voilà, on voit
donc
qu'Apple,
on pourra avoir un peu plus de zoom
de décalage avec les constructeurs Android, donc ça sera peut-être là-dessus que ça va se jouer. Et en effet, le casque de réalité mixte va être l'attraction principale. On est sur une année chiante, en même temps on est sur l'année la plus intéressante,
parce
que c'est l'année où on va avoir une introduction majeure.
Ça fait des années qu'on n'a pas eu un nouveau produit chez Apple.
Ça fait des années et c'est dangereux.
On va voir.
Ils se lancent sur une gamme très dangereuse. L'iPad, c'est une tablette à 500 euros qu'on peut mettre partout. Là, on parle d'un casque à 3000 euros qui implique le fait de se couper du monde et de se couper de son entourage, au moins provisoirement. Donc Apple se lance sur un terrain qu'il n'a jamais, affronté.
Très intéressant, on verra un peu comment tout ça évolue. On aura l'occasion évidemment de commenter tout ça sur la chaîne Tech & Co et sur BFM Business. Dans l'actu aussi, alors je vous disais, il y a de bonnes nouvelles et puis il y en a qui sont un peu moins bonnes, et notamment ça y est, c'est quasi acté, hein, Salto, vous savez, ce service de SVOD franco-français qui représentait un petit peu le savoir-faire français en matière de création, etc. Bah, là, ça sent pas bon du tout, hein, pour Salto, hein, Nicolas.
C'est assez triste, je trouve, Salto, parce qu'en réalité, on dit souvent que les Français, on n'ose pas lancer des choses, qu'on se laisse bouffer par les Américains. Et quand on lance quelque chose comme Salto, qui était quand même un projet ambitieux,
on
l'a pas vraiment aidé. Il a été freiné en partie par ses actionnaires eux-mêmes. Et on a tué en 2 ans et demi un service qui avait pourtant un potentiel intéressant. Salto, ça naît d'une idée qui est assez folle. En réalité, je trouve que c'est assez étonnant, ce type de partenariat. C'est les trois plus gros groupes de télé françaises, donc TF1, France Télévisions et M6, qui se disent que face aux Américains, il faut avoir un service de streaming en commun. Sont ambitieux, parce que c'est des groupes qui ne s'entendent pas forcément très bien normalement, qui décident de lancer Salto ensemble. Il y a une sorte d'union de la télé française sur ce service. C'est à la fois le direct, à la fois le replay, et à la fois un accès en avant-première à des programmes qui n'ont pas encore été diffusés. Ça a quand même réussi à réunir 800 000 abonnés. 800 000 abonnés en réalité.
Ce qui n'est pas anodin, quand même.
Ce n'est pas anodin, et c'est sans doute suffisant pour maintenir Salto en vie. Hein. C'est-à-dire que la mort de Salto, qui a l'air d'être programmée et qui va subvenir assez prochainement, est une mort qui peut être évitée avec les abonnés actuels. C'est juste qu'aujourd'hui, les actionnaires, donc TF1, France Télé et M6, n'ont absolument plus envie de travailler ensemble.
Bien sûr.
TF1 et M6 ont tous les deux lancé leur propre service payant, donc ils font de la concurrence à Salto. France Télévisions se dit que ça ne vaut pas trop le coup d'être le seul à gérer un service aussi coûteux. Donc du coup, plus personne n'a envie de maintenir Salto en vie. Ils ont tenté de trouver un repreneur. Ils avaient dit publiquement qu'ils espéraient que quelqu'un le rachète. Et a priori, le seul candidat qui était intéressé par Salto, c'est un acteur espagnol qui n'a rassuré personne parce que lui-même est dans le rouge. Donc, la conclusion, ouais. C'est que...
Vaut mieux fermer.
Voilà, on est le 20 janvier au moment de la diffusion de cette émission. Et ce jour-là, se réunit un conseil d'administration chez France Télévisions.
Qui doit notamment, décider du sort de
ce qui va se passer pour liquider Salto. Est-ce qu'on va vendre ses actifs? Est-ce qu'on le ferme tout simplement? Mais d'ici quelques heures, on devrait connaître la date de fermeture de Salto et ça devrait être la mort de cet ambitieux service de streaming français.
Ouais. Alors c'est vrai que bon, on a été tous un peu vaches hein, concernant Salto. On s'est beaucoup moqué de Salto quand c'est arrivé parce que c'est vrai que on voyait l'intégrale de Plus belle la vie. On s'était
dit, le budget ouais, aussi.
Payer 6 ou 7 euros pour ça, c'était un peu violent quand même. Et puis, on a l'impression que finalement, ce service de SVOD a été lancé sous l'impulsion du gouvernement, en tout cas du gouvernement en disant, bah, attendez les gars, mettez-vous d'accord et sortez-nous un service de SVOD. Donc finalement, il est mort-né parce que c'était quasi un ordre qui venait de là-haut et on a obligé TF1, M6 et France Télévisions de s'entendre alors que ce sont des concurrents effroyables au quotidien, alors même s'ils ont des relations entre eux, mais malgré tout, voilà.
Non mais une alliance de concurrence, ça part rarement bien.
Hein. Et franchement, on sentait que c'était mort-né. Il y a eu quand même de bonnes choses. Il y a eu des avant-premières. Il y a eu pas mal de séries. Alors c'est rigolo parce que finalement, le point fort de Salto, c'était des séries américaines qui étaient en avant-première.
Oui, ils ont même eu l'exclusivité sur Harry Potter, hein, un moment.
Tout à fait.
C'était eux qui avaient
exactement.
Chopé.
Exactement. Friends aussi.
Ils ont eu Friends The Reunion, oui, l'émission événementielle, c'était eux aussi qui l'avaient acheté. Donc il y avait
parce
une vraie volonté.
Parce qu'ils avaient les droits de Warner, en fait.
Il y avait une vraie volonté de se développer. Il y avait une volonté de réussir à choper des contrats que personne n'avait eu et avec leur faible budget, parce que si on compare au budget de Netflix, qui se compte en milliards, bah, les millions de Salto n'allaient pas très loin. Ils ont quand même réussi à obtenir des droits exclusifs qui leur permettaient d'avoir des abonnés. Et la plateforme n'était pas mauvaise en soi.
Non.
Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu deux trucs. Déjà, tu as raison de dire que de base, le projet en lui-même venait d'en haut et du coup, n'a pas été fait dans les bonnes
parce
conditions.
Parce qu'ils étaient là pour concurrencer Netflix, en fait.
Ils étaient là pour concurrencer Netflix.
Remettons-nous dans le contexte. Hein. Netflix commençait à exploser en France. Il fallait une réponse française à Netflix.
C'était l'idée. Et ce qui n'a pas aidé, je pense que pour moi, le coup de pied final hein, dans la tête de Salto, ça va être la fausse fusion de TF1-M6 qui a été avortée.
Qui a capoté.
Au moment de cette fusion, France Télé dit « Ah ok, super, comme ça, quand ils fusionnent, ils récupèrent Salto, ils en font leur plateforme unique. Et moi, j'en sors, je suis tranquille, parce que nous, le service public, on ne sait pas trop ce qu'on fout là-dedans. »
Ça, et puis il y a aussi des réductions de budget drastiques à France Télévisions.
Carrément,
ils ont d'autres obligations et d'autres priorités
France
aujourd'hui.
France Télé a dû baisser son budget et TF1-M6, finalement, pour fusionner, avoir cette plateforme en commun, c'était déjà un bon moyen d'avancer. Sauf qu'entre-temps, l'autorité de la concurrence bloque la fusion, ils abandonnent. M6 dit « Bah oui, il n'y a pas de raison que TF1 ait son propre service de streaming et pas nous, donc lance le sien, 6 Play Max, je crois qu'il ne coûte pas trop cher, je crois que c'est 2 ou 3 euros par mois, mais plus personne n'a envie de donner des contenus gratuitement à Salto, alors que pour eux, Salto, c'est une alliance dont ils n'ont pas envie. »
Et puis en plus, comme tu le disais, TF1 Max, M6 Play, etc., c'est-à-dire que tous ces associés, finalement, avaient chacun un service de SVOD qui leur était propre et qui venait concurrencer ce qu'ils avaient créé entre eux. Parce que sur TF1 Max, en payant, tu avais tout le contenu de TF1, M6 pareil, France Télé, c'était gratuit.
C'était
compliqué. Il y avait trop d'erreurs dans l'équation pour
beaucoup
que ça puisse tenir le coup.
Et beaucoup trop de manque d'envie. Il se dit d'ailleurs, il y a un article de Pure Media qui dit cette semaine que des dizaines d'employés sont déjà partis et que Salto n'a actuellement plus de bureaux. C'est-à-dire que tout le monde travaille un peu en distanciel jusqu'à la fin. Donc évidemment, je ne sais pas si tout ça est véridique, mais on peut quand même imaginer que Salto est au courant de son destin depuis quelques mois.
Ouais, c'est vrai que ça fait un moment que ça tourne un petit peu vraiment dans le tout Paris, cette histoire-là. Autre disparition, alors celle-ci qui est actée, on en a parlé, mais on peut dire que voilà, hein, la terre est fraîche sur la tombe de Stadia.
De Google Stadia. Et oui, c'est fini Google Stadia, ça s'est terminé mercredi, jeudi matin pour la France. Stadia, ce qui est un peu triste, hein, c'est que c'était un très bon service. en tout cas selon moi. C'était, vous saviez,
c'est vrai que je me souviens, hein,
Stadia.
Tu avais testé Stadia.
Mais alors au début, j'aimais pas. Enfin, au début, moi, je pensais que la promesse était bête. Je voyais pas comment Google pouvait réussir sur le cloud gaming. Et en fait, après l'avoir essayé, bah, c'est trop cool. Je l'ai souvent dit dans cette émission pour ceux qui l'écoutent régulièrement. Je viens de Nice, donc je descends de temps en temps à Nice chez ma famille. Évidemment, je descends pas avec une console dans ma valise. Donc,
non.
Normalement, quand je descends à Nice, je joue pas. Et avec Stadia, bah, je prenais ma tablette, mon ordinateur, je connectais n'importe quelle manette et je pouvais jouer à des jeux en qualité PlayStation, en qualité PC, parce que ça marchait super bien, c'était rapide, il n'y avait pas besoin d'avoir une excellente connexion pour que ça fonctionne. Ça marchait aussi sur une ADSL.
Bonne latence.
Il y avait pas de problème de latence, y compris pour des jeux comme FIFA qui ont quand même beaucoup d'appui sur la manette. Bah, ça fonctionnait bien, je trouvais le service génial. Mais j'ai toujours eu du mal avec la stratégie de Google qui a fait un changement. Ils ont mis un catalogue avec des jeux en illimité, mais ne l'a jamais dit. Donc les gens sont convaincus qu'il fallait payer pour avoir des jeux sur Stadia.
Oui, mais en fait, il y a eu un très mauvais marketing.
Non, mais
une mauvaise com.
Ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné très rapidement. Ils se sont lancés en 2019 avec plein d'envie, plein d'ambition.
Bien et puis ils se sont dit, ils avaient investi d'ailleurs dans des studios de développement.
Ouais, ils avaient racheté des studios. Ils vous avaient créé un Stadia, un Stadia Studio, mais qui a été abandonné en quelques mois parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûte cher de développer des jeux. Donc ils ont dit, on laisse tomber. Le service n'a pas bougé en 3 ans. Il faut s'en rendre compte quand même. Un service qui ne bouge pas en 3 ans. Ils ont lancé un nouveau Chromecast sans Stadia. Il a fallu attendre 1 an et demi pour que le Chromecast reçoive la mise à jour pour jouer à Stadia.
Mais ça prouve en tout cas.
Ils ne se sont pas vraiment intéressés au service. Ils l'ont laissé mourir. C'est vraiment dommage. Et maintenant, Stadia n'existe plus. Il reste quelques concurrents. Mais pour moi, c'était le meilleur des services de cloud gaming. Et il est tué bêtement alors qu'il fonctionnait.
Ouais. Ça va être intéressant de voir la suite. Est-ce que un autre géant, tu vois,
prend la relève.
Va prendre la relève. On sait que Microsoft est plutôt bon dans le cloud avec la Xbox, etc. Ils ont d'ailleurs une offre de cloud, mais qui n'est pas la même, en fait.
Non, c'est une intégration au Xbox Game Pass, donc le catalogue inclus quand on joue sur Xbox ou sur PC. L'idée, c'est qu'on peut jouer à tous les jeux du Game Pass sur son smartphone. On s'en a dit, ça marche très bien. Moi, je pense que ça va être le virage pris. C'est que finalement, ça ne sera pas Google et Apple qui feront du cloud gaming, ni Amazon. Amazon avait Luna, d'ailleurs. Ça sera PlayStation, ça sera Microsoft avec la Xbox, ça sera Nvidia qui est présente sur le secteur du jeu vidéo, ce sera Steam. C'est finalement les acteurs du jeu vidéo qui ne vont pas lancer une offre de cloud gaming, mais qui vont adapter leur offre au cloud gaming pour permettre de la modalité, de la portabilité peut-être, je ne sais pas si le mot que j'ai choisi était le bon.
Non, mais écoute, c'était pas mal.
Modalité,
on a compris. Donc voilà pour ce sujet. Alors bon, ça c'était les mauvaises nouvelles. Là aussi, on va revenir à la SVOD parce que c'est une actualité qui est aussi très bouillante en ce moment, bouillonnante même, puisque d'un côté, on le sait, OCS va alors on ne sait pas si ça va disparaître, mais ça a été racheté par Canal. En fait, si vous êtes abonné à OCS, peut-être petit à petit, on peut imaginer que Canal+ va digérer OCS avec le contenu qui restera là. Mais si vous êtes abonné OCS sans Canal, il va falloir voir comment ça va se goupiller tout ça, hein, puisque en fait, Canal n'a pas encore bien communiqué là-dessus. OCS, qui était le service de SVOD d'Orange. Hein.
Oui, ce qui est à la fois un service de SVOD et à la fois des studios de cinéma. C'est un peu plus ça que Canal rachète. Canal a déjà des chaînes, a déjà un service. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer les productions. Donc, à voir, encore une fois, s'il n'y a pas des autorités de concurrence qui bloquent ça. Je ne pense pas. Je pense que ça devrait passer, mais en tout cas, le projet de rachat est entré.
Parce que c'est un petit rachat, finalement, par rapport...
Oui, à cette échelle-là. Et de toute façon, OCS hein, a perdu les droits de HBO parce qu'ils ne les ont pas renouvelés. Parce qu'à la base, HBO avait aussi prévu de lancer son propre service de streaming en France. Mais il y a eu un changement de direction qui a dit qu'il fallait prendre le temps de lancer les services. Donc, c'est plutôt décalé à 2024, maintenant, le lancement de HBO Max ou de son successeur en France. Donc, on s'est retrouvé dans une situation très bizarre le 31 décembre. C'est qu'il y a plein de séries ultra populaires qui ont disparu, qui étaient introuvables sur le marché français. Game of Thrones, par exemple, on est avec elle, hein, quand même, la série la plus populaire de ces 10 dernières années. Bah, c'était impossible de regarder Game of Thrones en France sans acheter un DVD ou sans acheter la série sur une plateforme de VOD parce qu'il n'y avait aucun diffuseur légal qui avait les droits. Il y avait des rumeurs, on disait que peut-être que le groupe Warner Bros. Allait vendre les droits de HBO à Amazon. Peut-être qu'il allait lancer son propre service en ligne provisoirement. On ne savait pas ce qui allait se passer et on a su ça en fin de semaine dernière. Ce serait très surprenant. Moi, je trouve que c'est vraiment une annonce extrêmement étonnante.
Et on a l'impression que c'est presque une annonce précipitée, finalement.
Je pense que c'est une annonce
précipitée.
Après,
le timing était très serré parce qu'il y a la grosse série
d'HBO. Il y avait The Last of Us.
The Last of Us qui était diffusée aux US. Donc, il fallait vite se dépêcher.
Oui.
Donc, on récapitule cette annonce. Sur Amazon Prime.
Alors, Amazon Prime a acheté les droits de The Last of Us. Donc c'est une série Amazon en France. C'est très étonnant. C'est comme si une série Disney, genre le nouveau Star Wars, arrivait en exclusivité sur Netflix en France. C'est très bizarre quand on sait que c'est un concurrent aux États-Unis d'Amazon. Et la deuxième partie, c'est que Amazon va diffuser en exclusivité tout le catalogue de la Warner, donc HBO, Discovery, Eurosport, dans un abonnement payant, donc sous la forme d'une Amazon Channel, qui sera lancée en mars. Donc en gros, Amazon a pris la relève d'OCS et ils vont le vendre sous une option payante. Ça ne sera pas intégré à Prime Video.
On a le prix déjà ou pas de cette option ?
On n'a pas le prix, comme tu le dis. Ça a été sans doute lancé un petit peu vite. J'ai cru comprendre en effet que les discussions entre Amazon et la Warner se sont vraiment terminées au moment où l'annonce a été faite.
Ouais.
Donc, c'est pas sûr que le prix soit fixé. Il faudra aussi peut-être que la Warner étudie le prix de cette offre-là. C'est une offre quand même qui propose HBO, qui propose Discovery, qui propose TCM, qui propose Eurosport. Tous ces contenus séparément, il coûtera à peu près une trentaine d'euros. On ne peut pas lancer une option payante, un service qui coûte 10 euros par mois, à 30 euros par mois. Donc il va falloir que la Warner casse les prix, il va falloir qu'elle essaye de trouver quelque chose qui leur permette d'avoir une offre rentable. Donc je pense que d'ici mars, on en saura un petit peu plus. Mais c'est assez unique de voir deux concurrents s'allier comme ça pour lancer une offre de streaming provisoire ensemble.
Voilà, et comme tu le dis, c'est provisoire avant que la Warner fourbisse ses armes et sorte en Europe et notamment en France son propre service. Donc il pourrait s'appeler Max, d'après ce
Max,
que j'ai compris.
Oui. Ça serait une fusion. Il y a deux services aux États-Unis, HBO Max et Discovery Plus. Mmh. Et l'idée, ça serait de fusionner tout ça et de faire une. En fait, ce qu'on va avoir en France, je pense qu'on a un petit peu les bêta-testeurs de ce service. Ce qu'ils appellent Pass Warner sur Amazon, donc Eurosport, HBO, Discovery, tout ce que je viens de dire, c'est pour moi le fameux service Max qui arrivera après, sauf qu'il sera vendu par la Warner Bros. Discovery directement.
Donc voilà, ça bouge. Hein, bon, après, le problème, c'est que ça bouge aussi dans notre porte-monnaie parce que ça fait des options supplémentaires à payer.
Oui, si pour ceux qui étaient abonnés au OCS, c'est pas un bon plan.
C'est pas un bon plan hein, parce que dans OCS, pour quelques euros, on avait en plus tout ça. Là, on va se retrouver avec une option supplémentaire. Et si vous êtes fan de l'IA, suivez mon regard, vous payez possible. Déjà le pass Ligue 1 sur Amazon.
Sur Amazon.
Donc,
ouais,
plus l'abonnement Amazon Prime annuel, en fait. Donc, ça, c'est pas anodin.
Heureusement, The Last of Us, c'est gratuit. Même si il y a la déception que ce soit pas en 4K. Mais bon, ça, c'est.
Tu as vu le premier ou pas ?
Pas encore, j'attends. Enfin, je vais le voir dans le week-end, je pense.
Tu as eu les premiers échos, parce que c'est vrai que c'est sans doute, alors c'est rigolo, parce qu'on est au tout début de l'année, c'est sans doute l'une des séries les plus attendues de l'année 2023.
C'est le deuxième record d'audience de l'histoire de HBO, donc c'est aussi la preuve que la télé linéaire est loin d'être morte. Hein. Il y a encore ces événements.
Oui, la diffusion en direct a cartonné, en fait.
La diffusion en direct a cartonné, et nous, sur Numérama, on a eu la chance de voir la saison entière en avant-première.
Wow.
HBO nous l'a envoyé, et on l'a classé dans la catégorie chef-d'œuvre avec un 10 sur 10, donc on la met au niveau de Game of Thrones dans ses meilleures années. Donc en termes de réalisation,
de narration,
de scénario, etc. Même elle se permet des libertés que le jeu vidéo n'avait pas pris sur certaines choses, parce qu'évidemment il a fallu compléter la série pour en faire quelque chose de plus grand public, et on considère que c'est une excellente série. Donc j'ai assez hâte de la voir. C'est vrai que je suis un peu triste de ne pas pouvoir la commenter là.
Enfin voilà, et puis c'est dans un monde apocalyptique, hein, rappelons. Enfin voilà, si vous ne connaissez pas le jeu vidéo, on se retrouve quelques années après l'explosion de notre monde que l'on connaît aujourd'hui.
Et
enfin voilà, c'est la course poursuite d'un homme et d'une jeune fille, en fait, dans un monde qui n'existe plus, finalement, mais où il y a des zombies, en quelque sorte, c'est ça hein.
C'est un champignon, une maladie à transformer des gens. Donc justement, il y a en effet, les humains sont devenus sauvages, et il y a une petite fille qui a été infectée, et qui, elle, n'a pas développé la maladie. Donc elle est vue comme l'espoir de l'humanité, et on doit traverser des États-Unis dévastés par ce monde où il n'y a plus de société. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de travail, et on doit l'emmener pour espérer sauver l'humanité.
Intéressant, on va voir. Moi aussi, hier, pour tout te dire, hier j'étais devant le sticker de The Last of Us, j'ai dit qu'est-ce que je fais ?
J'ai hésité.
En plus, j'ai vu que le premier épisode durait 1h20.
Ouais, je crois que tous les épisodes sont longs.
Ça donnait vraiment envie.
Ouais.
Je me suis dit non, attends, parce que là en fait c'est un épisode par semaine. En
c'est
fait,
ça, hein. Oui, tous
il y
les lundis.
10, c'est ça ?
Pardon ?
Il y en a 10 ?
Je sais plus. Bon. Je crois que c'est tous les lundis, mais après, je peux pas te dire.
D'accord.
Je crois que même si c'est pas moi, c'est pas. Mais bon, en tout cas, c'est une série courte.
On va suivre ça de près. Tiens, puisqu'on a abordé un peu le jeu vidéo, là encore, beau record pour Nintendo, qui, et tu voulais nous en parler, cartonne avec sa Switch et bat des records en fait de vente.
Oui, c'est dommage, j'ai plus tous les chiffres en tête sur Nintendo, mais en tout cas, ils sont sortis cette semaine. C'est tous les ans, Nintendo fait un point avec certains représentants de médias sur ces chiffres de vente. Et ce qui se dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus de la moitié des consoles qui sont vendues en France, c'est la Nintendo Switch. C'est expliqué par plusieurs raisons. On peut dire que les pénuries de PS5 et de Xbox Series, elles n'ont pas aidé. Mm-hmm. Mais on peut quand même imaginer que la Switch, par son côté grand public, son côté familial, est toujours une console qui, finalement, a le potentiel de battre la PS5, de battre la Xbox, et qui va continuer d'occuper ce classement numéro 1. C'est assez miraculeux quand on se rappelle de Nintendo il y a 5-6 ans avec la Wii U, qui ne se vendait pas, qui était distancé par la PS4, qui était une console qui a fait un flop monumental. Là, aujourd'hui, Nintendo est de retour au sommet des ventes de consoles. Les ventes de jeux, sans surprise, Pokémon, largement la franchise la plus populaire. C'est celle qui s'est vendue le plus en France. Et il y a toujours Mario Kart qui arrive juste derrière, alors qu'il est sorti il y a 5 ans.
Non, mais plus, c'est ça
parce qu'il est sorti sur Wii U à la base, donc il est sorti il y a 5
c'est
ans sur Switch.
C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait... Nintendo écrit sa propre histoire dans le monde du jeu vidéo, ça, parallèlement aux autres en fait.
Ça n'existe pas,
ça n'a aucun sens.
Il n'y a pas dans l'écosystème PlayStation un jeu sorti il y a 5 ans qui est dans le top 3 des meilleurs ventes.
Ça n'existe pas.
Donc Nintendo a cette capacité hors norme à battre des records. La Switch, elle s'est plus vendue que la Wii en France. Il y a plus de Switch que de Wii en France. Je ne sais pas si on s'en rend compte parce que la Wii, c'est déjà la console la plus vendue avec la PS2. Et le plus fou dans tout ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette interview que j'ai pu notamment lire dans le Figaro, c'est que Nintendo France dit s'attendre à un record de vente au moment de la sortie du film Super Mario en mars, je crois.
Mais oui, forcément.
Donc, ça veut dire que la console a 5 ans. La console passe son temps à être critiquée par la presse spécialisée. Nous, on passe notre temps sur Numérama à dire que graphiquement, c'est une catastrophe et que c'est une honte d'avoir une console comme ça sur le marché. Mais que malgré ça, on s'attend à un pic de vente sans absolument la mettre à jour. On sait qu'elle va cartonner parce que les familles vont aller voir le film Super Mario et ils vont dire bah, on achète Mario Kart, on achète le Mario Odyssey.
C'est un peu comme Apple, Nintendo. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est avec un affect très fort. Et c'est vrai que moi aussi je suis le premier à critiquer la Switch parce que pour plein de raisons, mais bon, je suis le premier à la mettre dans mon sac à dos
pareil, j'adore.
Quand on prend un TGV quoi,
j'adore, en fait, j'ai dû faire 30 heures sur le dernier Pokémon alors que j'ai passé mon temps à le critiquer, à dire que graphiquement c'était horrible. Ça l'est, hein, c'est horrible, hein, Pokémon. Mais bon, c'est cool, on s'amuse bien et c'est vrai que la Switch est une bonne idée, mais...
On peut s'attendre à des trucs nouveaux du côté de Nintendo là, dans les...
il y a Zelda, le nouveau Zelda qui arrive, qui est le jeu le plus attendu de l'année sans doute, hein, parce que le
mais bon, qui sera limité en fait à la puissance de la Switch, qui rappelons-le est sorti il y a 6 ans, hein, donc
avec une puce qui avait déjà 2 ans. Bon,
rendez compte, 8 ans.
Enfin, mais ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas comment c'est possible.
Donc ce Zelda, évidemment, qui est en plus un jeu ouvert et qui est très attendu, cartonné forcément. Il sort cette année en 2023.
Oui, il sort Nintendo confirmé. En début d'année, oui. J'ai plus les dates, je crois que ça doit être février-mars. Hein, c'est quasiment imminent, hein, le nouveau. On peut vérifier, mais ça arrive très vite. Mais je pense que graphiquement, ça va aller parce que les développeurs de Zelda ont fait un super travail avec Breath of the Wild. C'est le même univers. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas.
Et puis, ils ont dû optimiser tout ça.
C'est ça, c'est pas Pokémon. Oignons. Pokémon, ils font un jeu tous les ans, ils vont vite, ils sont pas aidés par la console. C'est sûr qu'une Switch deux fois plus puissante les aiderait un peu plus. Là, je pense que Zelda, ça devrait aller. Mais c'est vrai que niveau matériel, les rumeurs disent que la Switch Pro est annulée. Que s'il y a eu une Switch Pro qui était prévue, Nintendo, par du fait que ça se vend suffisamment bien comme ça, donc on reste sur ce modèle-là, et ce qui s'appellera, ce qu'on espère être une Switch Pro avec de la 4K depuis 3-4 ans, sera sans doute le successeur de la Switch. Donc non, je ne m'attends pas à des nouveautés matérielles côté Nintendo, je pense qu'on va rester sur ça. Mais tant mieux pour eux, ils en vendent, hein, ils arrivent à battre la PS5, donc bravo à eux.
Ouais, c'est étonnant, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire ils pourraient relancer même en parallèle une console de salon, finalement, pour essayer
La Switch LED.
Mais c'est vrai que technologiquement elle est à la ramasse. On pourrait se dire qu'ils ressortent quelque chose un peu mis au goût du jour qui permet d'avoir une immersion. On pourrait imaginer même peut-être pourquoi pas de la VR, etc. Mais en fait Nintendo s'en fout.
Ils ont été un des premiers en VR en plus, hein, Nintendo. Ouais. Il y a 10-15, plus, il y a 15-20 ans, ils avaient lancé un casque VR de jeux vidéo, mais ça fait flop. Comme tout ce qui a touché à la VR jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Toute la VR.
Mais c'est étonnant parce que l'ergonomie. Si tu vas bien voir, tu prends la Wii U par exemple, l'ergonomie de la Wii U, on la retrouve quand tu mets ton masque de réalité, de réalité virtuelle finalement. Tu vois, avec tes capteurs et tout, des trucs comme ça,
on
y est quoi.
C'est vrai, non mais c'est pour ça que Nintendo est une boîte très étonnante. La comparaison avec Apple est bonne, mais je dirais même que c'est pire ou mieux à défaut. Ça dépend de la perception de chacun, mais pour moi, Apple ne pourrait pas. tenir deux ans avec un produit qui n'est pas à jour, un iPhone pas à jour, il serait forcément critiqué, rattrapé par la concurrence. Là, Nintendo peut faire une console avec un processeur de 8 ans et il n'est absolument pas embêté. Un iPhone avec un processeur de 8 ans serait dépassé parce qu'il y a une trop grosse concurrence.
Bien sûr. Voilà, mais ça fait partie du charme de cette belle boîte Nintendo qui est complètement à part et qui nous touche, on va dire, peut-être plus... Enfin, qui touche nos sentiments, en quelque sorte. Merci, Nico.
Merci, François.
C'était toujours un plaisir d'échanger avec toi sur toute l'actu tech de cette semaine. Rappelons que tu es journaliste à Numérama et on va tester Twitch. Donc, sur Numérama,
on se rejoint sur Twitch,
évidemment,
de temps en temps.
Vous restez avec nous, que vous soyez sur BFM Business, à la radio, à la télé, ou sur YouTube, ou en podcast. On revient tout de suite, deuxième partie de Quoi je me mêle.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je me mêle est pour l'un de ses premiers De quoi je me mêle de l'année 2023. Pas tout à fait, hein, puisqu'on commence à bien avancer dans ce mois de janvier. Je suis ravi de reprendre les bonnes habitudes avec notre rendez-vous Lab of Fnac et notre camarade Lionel Costa qui est là. Salut Lionel.
Bonjour François.
Responsable du développement du Lab of Fnac, ravi de te retrouver et tous mes vœux. Voilà.
Tous mes vœux également et j'en profite pour te remercier de me donner la parole, de pouvoir donner des infos, des conseils, décrypter un petit peu pour aider les gens à choisir bien leurs produits.
Ben voilà, et on est très heureux de ce partenariat hein, avec le Lab of Fnac. Et de temps en temps, tout au long de cette année 2023, Lionel, tu reviendras pour nous dire un petit peu quels sont les meilleurs produits dans toutes les catégories. Parce que rappelons-le, au Lab of Fnac, vous testez des centaines et des centaines de produits par an dans tous les domaines, audio, vidéo, etc., téléphone aussi, smartphone. Et c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Alors là, pour ce premier rendez-vous de l'année, on va s'intéresser à un produit, on va dire un peu vintage, qui revient au goût du jour, c'est la mini-chaîne. Alors là, je m'adresse aux boomers qui, tout comme moi, ont grandi avec des chaînes IFI. Après, ça a été des mini-chaînes, il y a eu le vinyle, il y a eu la cassette, il y a eu le CD. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la mini-chaîne revient, Lionel, contre toute attente finalement.
Elle revient, elle a jamais disparu, mais elle s'est vraiment effritée de nos linéaires. Il y avait plus grand monde. Et en fait, elle revient. Elle revient avec avec les technologies des nouveaux produits. Par exemple, le streaming, par exemple, la connectivité, tous ces éléments-là. La micro-chaîne, c'était au départ vraiment un module ampli avec des petites enceintes qui étaient collées dessus. Et ça permettait de remplacer un ensemble audio beaucoup plus grand, beaucoup plus volumineux et souvent beaucoup plus cher. Cette mini-chaîne-là, elle a toujours fait partie des foyers, mais elle s'est un petit peu mise sur le côté puisque c'était plus trop à la mode. On avait notre téléphone, on avait tous les services streaming. Voilà. Et pourtant, on a des belles nouveautés qui arrivent là-dessus.
Ouais, des belles nouveautés et des beaux produits. Oui. Parce que ce qui est cool aussi, c'est qu'une mini-chaîne, c'est assez design, je trouve. Voilà, ça peut habiller un meuble, une étagère, etc. Voilà, ça donne un côté un peu classe, en fait. Mais la question qu'on peut se poser, la mini-chaîne au départ, c'était donc pour se substituer aux grosses chaînes avec le vinyle, le cassette et tout. La grande époque de la mini-chaîne, c'était le CD. On est d'accord.
Oui, c'est ça, exactement.
Tu avais un ampli, le tuner FM et un lecteur CD.
C'est ça, parce qu'anciennement, les chaînes hi-fi des gens, c'était plusieurs modules de lecteurs. Il y avait un lecteur, une platine vinyle, il y avait un ampli, il y avait un lecteur radio cassette. C'était bien avant l'arrivée du CD, du compact disque et évidemment les enceintes. On pouvait avoir plusieurs enceintes, etc. Le compact disque, le mot compact disque, il rentre complètement dans cette lignée-là. C'est-à-dire une mini-chaîne compacte, c'est-à-dire quelque chose qui est petit dans un seul CD. On avait les étagères de disques, etc. On pouvait tout réunir dans un seul disque. Et le fait d'avoir un compact disque avec cette chaîne hi-fi permettait d'avoir un produit beaucoup plus compact et avoir une qualité de son qui était pas ridicule du tout. On n'est pas évidemment sur des enceintes colonnes, mais on a quand même des qualités de son qui sont très très bonnes pour un salon, pour une écoute chez soi. On est avec quelque chose de très confortable.
Alors tu vas nous parler tout à l'heure des top produits parce que oui. vous testez bien évidemment oui. À la FNAC ces mini-chaînes, oui. c'est intéressant, ça prouve en tout cas que voilà, elles sont là hein, mm. puisque vous les testez. Il y a des marques mythiques hein, qui sont dans ce domaine, on va en parler dans quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est que les mini-chaînes sont sorties en fait des linéaires parce qu'elles n'avaient pas pris le virage du numérique en quelque sorte.
C'est ça. Hein.
Les premières faisaient l'impasse sur le Bluetooth, le streaming, et aujourd'hui en fait, même si leur apparence est assez similaire à celle des années 90 et 2000, elle renferme plein de technologies en fait, ces mini-chaînes.
C'est ça, je complète ce que tu dis, c'est-à-dire que elles ont disparu, ou en tout cas elles se sont réduites, presque autant que l'engouement du compact disque, du disque. C'est vrai que le support matérialisé de musique, il disparaît de plus en plus et les gens sont de plus en plus à se connecter à des services de musique en ligne, de streaming. Et donc le compact disque, il fait un petit peu arrière-garde là-dedans. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des disques et qui aiment avoir ce support physique-là. Et comment ils font pour l'écouter ? Ils ont besoin d'un équipement. Et la mini-chaîne rentre ouais. complètement là-dessus.
Si on est un peu mélomane, oui. est-ce que ça vaut le coup de se poser la question, Lionel, au lieu de m'acheter deux bonnes enceintes connectées, genre Sonos ou je sais pas, enfin il y a JBL, il y a plein de marques, Harman, etc. Est-ce que ça vaut le coup de faire l'impasse sur ce choix stratégique et d'aller plutôt vers une mini-chaîne ? Est-ce que la mini-chaîne procure un très bon son, voire supérieur en fait à ce que font des enceintes connectées ?
Si on prend les très haut de gamme mini-chaînes, on a des qualités de son qui sont très comparables. Mais c'est vrai que les références, le nombre de modèles qui existent en mini-chaîne est quand même beaucoup plus réduit que le nombre de modèles en enceinte sans fil, en enceinte active. Et dans les enceintes sans fil, on a des choses de très très bonne qualité. Tu as parlé de Sonos, il y a évidemment JBL, on a du Devialet. Là, si je veux comparer une mini-chaîne compacte avec des deux Devialet, réacteurs fantômes, etc., on est, alors déjà, ce n'est pas les mêmes prix.
Ce n'est pas les mêmes prix.
Exactement.
Hein.
Donc, c'est vrai que les mini-chaînes, même le très haut de gamme, on n'est pas du tout équivalent à du très haut de gamme sur les enceintes actives. Mais si on veut s'installer chez soi, on n'a pas beaucoup de place, on est limité en termes d'environnement,
oui, de volume,
la mini-chaîne, c'est quand même une bonne solution. Les très haut de gamme délivrent des qualités de son qui sont déjà sans distorsion, avec des puissances qui peuvent dépasser les 100 décibels. Donc on est sur quelque chose de très qualité. Et on peut se poser la question, parce qu'en termes de rapport qualité-prix,
c'est peut-être plus intéressant.
D'encombrement, il y a peut-être un intérêt là-dessus. Et aussi de connectivité et de simplicité. Si jamais je veux écouter des CD, avoir une enceinte connectée, ça ne me sert à rien. Il me faut ce lecteur-là CD. Alors, je peux utiliser ma box, je peux utiliser une console, mais c'est une autre installation. Alors que là, la mini-chaîne, c'est une entité seule qui peut vivre de manière autonome. Je mets mon CD, je mets ma radio, et j'écoute directement avec cet outil-là. C'est un usage un petit peu différent, mais on peut se poser la question.
Alors, la mini-chaîne lecteur CD,
oui.
obligatoire, elles ont toutes un lecteur CD, les mini-chaînes
Alors, elles ne sont pas obligées, mais en fait, oui.
Ça fait partie du package, quoi,
exactement.
On va dire.
Une mini-chaîne sans lecteur CD, ça devient ni plus ni moins qu'en fait, soit un poste radio connecté, soit une enceinte connectée.
En effet. Donc, lecteur CD, toujours tuner.
Oui.
Alors, tuner FM,
oui.
pour écouter la radio,
oui.
mais, et ça c'est nouveau par rapport aux anciennes, elles sont toutes compatibles DAB maintenant.
Oui, DAB+, c'est une
obligation d'ailleurs.
C'est ça, exactement, c'est une obligation, à vérifier, mais je crois que c'est à partir de 2024, plus aucun appareil n'aura le droit d'être vendu avec uniquement le tuner FM. Il faudra forcément qu'il y ait le tuner oui. DAB+.
En fait, c'est comme les voitures aujourd'hui, toutes les voitures sont obligées d'avoir un lecteur DAB en
fait. Exactement, et c'est vraiment pour faire une transition entre les fréquences utilisées par la FM et le DAB+. Petit rappel peut-être de ce qu'est le DAB+, on n'a pas parlé. Le DAB+, c'est de la radio numérique terrestre. En fait, c'est l'équivalent de quand on est passé à la télé analogique, à la TNT. C'est exactement la même chose, sauf que sur la partie radio. Donc, ça promet évidemment une meilleure qualité, une qualité numérique. Après, il faut voir la transformation dans la réalité. Et ça permet d'avoir vraiment de la radio en data pure, donc avec plein d'informations. Le nom de l'artiste, le titre de la musique, même pourquoi pas l'agenda des musiques de cette radio-là. Donc il y a plein de data qui peuvent être passées là-dessus.
D'accord.
Donc, obligatoirement tuner FM, DAB+ sur les mini-chaînes aussi.
Voilà. Et alors, après, il faut être dans une zone où on reçoit le DAB+. En France, là, je veux dire, il y a l'extension, en tout cas, la couverture est progressive, mais il y a encore des régions où il n'y a pas de DAB. Oui. Hein. À Paris, bien sûr, ça commence, dans les grandes villes. Renseignez-vous, là encore. Hein. Oui. Mais petit à petit, la France sera totalement couverte par le DAB. Mmh. Après, si on a une connexion Internet, c'est vrai que, bon... ça a moins de sens, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Ces mini-chaînes donc, font CD, font DAB, et elles font streaming aussi, oui. Aujourd'hui.
En fait, il y a plusieurs manières de faire du streaming sur une mini-chaîne. Soit elle est Wi-Fi et elle est pourvue de logiciels qui permettent de se connecter à du Spotify, du Deezer, du Tidal, du Qobuz, etc., qui nous permettent d'avoir...
Donc c'est vraiment dans le dur, en fait.
Exactement. C'est un logiciel directement intégré son écosystème. Okay. Soit elle est simplement Bluetooth, et là, de son téléphone, on fait ce qu'on veut avec sa mini-chaîne. Tout ce qu'on a comme application, comme musique sur son téléphone, on l'envoie en Bluetooth sur la chaîne Hi-Fi, et là, on bénéficie du son sur la chaîne Hi-Fi.
De toute façon, elles sont toutes Bluetooth aujourd'hui, ces mini-chaînes, on est d'accord. Hein.
Non, enfin, les premiers prix ne sont pas Bluetooth, mais celles-ci, on ne les teste pas, parce qu'en plus, ce sont souvent des modules ampli-enceintes qui sont complètement moulés. On ne peut même pas dissocier les enceintes des mini-chaînes. Ça, c'est un petit plus par rapport... entre les moyennes gammes et les hautes gammes et les entrées de gamme, c'est vraiment d'avoir la possibilité de changer les enceintes d'une mini-chaîne. C'est tout bête, mais en fait, ce package-là, qui est très bien et qui va valoir 300 euros par exemple, si j'ai des enceintes chez moi ou je veux récupérer des enceintes que je veux connecter à mes mini-chaînes, je peux. Et là, je bénéficie de qualité d'enceinte exceptionnelle avec un petit ampli. Alors, c'est peut-être pas le plus optimisé, mais on bénéficie vraiment d'un upgrade sur sa qualité de son.
Oui, on peut brancher les enceintes cabasses de papa sur une mini-chaîne. Alors après, il faut que l'ampli soit au diapason.
Oui, c'est ça. Il faut que... je ne rentre pas dans l'impédance, mais il faut évidemment une bonne impédance. Il faut que les câbles soient les câbles en cuivre soient compatibles avec la mini-chaîne. Mais ça, petite astuce, si vous souhaitez acheter une mini-chaîne, quand vous allez en magasin, vous regardez, vous tripotez, vous ne savez pas trop regarder à l'arrière de la mini-chaîne. Si la mini-chaîne a des borniers pour pouvoir connecter ou déconnecter facilement les cuivres des enceintes,
c'est un bon indicateur. C'est plutôt bon signe.
Parce que ça coûte cher à fabriquer. Ouais. Et donc, si le constructeur n'a pas mis ça en place, c'est qu'il a voulu réduire les coûts partout, y compris là-dessus, et peut-être aussi dans la qualité audio.
On revient donc au streaming. Bien se renseigner pour voir si, effectivement, on veut partager sa musique en Bluetooth. Oui. Ou alors... parce qu'on va intégrer, on va rentrer son login et son mot de passe directement sur la chaîne, sur Spotify, Apple Music, etc. Ce qui permettra sans doute aussi une meilleure qualité sonore que le Bluetooth, on est d'accord.
Oui.
Est-ce qu'il y en a qui sont compatibles lossless et sont, on va dire, haut de gamme, non compressés?
Oui. Vous avez des très hauts de gamme qui ont justement cette partie-là, mais c'est toujours lié à une application. Par exemple, les mini-chaînes qui sont compatibles Qobuz ou Tidal, qui sont vraiment leur spécialité, c'est du lossless, le sont forcément. Après, c'est la partie logicielle, mais il faut quand même relativiser ça par rapport aux enceintes qui ont été pourvues.
Ouais.
Si les enceintes sont un petit peu faiblardes, vous ne verrez pas la différence entre du lossless et du compressé de manière très bonne qualité.
Tout à fait. Le streaming, ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces mini-chaînes, pour la plupart, intègrent aussi des protocoles, on va dire, de communication avec d'autres appareils numériques de la maison, notamment le DLNA. Ouais. Ça veut dire que si j'ai un NAS et que j'ai un disque dur avec toute ma musicothèque, en quelque sorte, en fait, toute ma CD-tech que j'ai numérisée, eh bien, la mini-chaîne va pouvoir aller piocher là-dedans, en fait, à distance, c'est ça ?
Exactement, comme une énorme clé USB, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir accès au répertoire.
Ça, c'est pratique.
C'est hyper pratique et c'est vraiment le côté numérique et c'est vraiment l'intérêt. On va tous se rappeler de la cassette audio. Hein. Bon, pardon, moi, je vais m'en rappeler, d'autres noms, mais la cassette audio où s'il y avait 10 titres sur la cassette, fallait dérouler la cassette jusqu'à arriver au bon moment. On n'est plus du tout là. Là, on a vraiment accès à l'ensemble des pistes, on peut les changer assez facilement. Et comme tu dis, pour le DLNA, mais il y a d'autres types de serveurs où, en fait, on va se retrouver avec toute la bibliothèque, soit chez soi en local, soit dans le cloud. On peut tout à fait imaginer avoir de la musique ailleurs. Et Spotify et Deezer, c'est ni plus ni moins que des musitech dans le cloud. Et on a aussi, sur certaines marques, des écosystèmes, des logiciels applicatifs qui permettent d'interconnecter différentes enceintes dans différentes pièces. Mmh. Et là, une seule application va permettre de piloter une musique. Et quand on va se balader d'une pièce à l'autre, on aura toujours cette même musique-là qui va passer d'une enceinte à l'autre. Pas ça, mal. C'est tout un écosystème. Ouais. Et évidemment, le piège, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'il faut avoir toujours la même marque et être à jour pour bénéficier de ces prestations-là. Il n'y a malheureusement pas d'applicatif universel, multimarque qui fonctionne correctement.
Ça se met à jour, justement, ces mini-chaînes, comme un ordinateur, comme un smartphone ?
Certaines, oui. Certaines, oui, justement. On peut avoir certaines mini-chaînes qui ne sont pas compatibles lorsqu'elles sortent du carton quand elles sont neuves, bénéficient d'un certain codec. On va avoir, je sais pas, un MP3 X kilobps. Et au fur et à mesure de sa vie, il y aura des évolutions et elles vont se mettre à jour et elles seront à nouveau compatibles.
Comme une télé, en quelque sorte.
Exactement, comme une télé connectée.
Alors, les top produits du Labo Fnac, je crois que tu nous as sélectionné quelques modèles.
Oui, il y a deux produits principaux que je trouve bons. L'un parce qu'il est très très bon et l'autre c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Je rappelle ce qu'on mesure sur les mini-chaînes pour savoir quelles sont les meilleures, comment est-ce qu'on attribue les étoiles. On a la réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de la mini-chaîne à délivrer des basses, des médiums, des aigus. C'est toujours le maître mot en fait de la mesure de la qualité audio, c'est de savoir grave, médium, aigu, est-ce qu'ils vont me délivrer quelque chose d'équilibré, pas un truc surboosté dans les basses ou avec zéro aigu. C'est vraiment la chose la plus équilibrée. Ensuite, on a le niveau de puissance. Le niveau de puissance, c'est pas on met à fond et puis on s'en fiche de la qualité de son son. C'est on augmente le son jusqu'à un taux de distorsion. Le taux de distorsion, c'est ces espèces de parasites qu'on va entendre si on fait trop fort. Ça, on va mesurer avant ce parasitage-là. On a donc la distorsion, on a la vibration aussi des caissons. Si jamais les enceintes, les mini-chaînes sont faites avec des matériaux un peu plastiques, fragiles.
Elles vont bouger en même temps qu'il y aura des basses.
C'est ça. Ça crée des perturbations. Et on mesure évidemment la qualité du CD parce que certains lecteurs optiques CD font des sifflements. Donc ça, on va le mesurer également. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui sont mesurés et qui nous permettent de dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la meilleure mini-chaîne que nous avons mesurée, c'est la Yamaha MCR N670D qui a obtenu 5 étoiles. Pour donner un niveau de puissance pour les audiophiles et ceux qui veulent mettre un peu de son, elle atteint sans distorsion, elle atteint les 95 décibels. Ce qui est très très bon, enfin surtout dans
si on vous peut, êtes on peut sonoriser quel type de pièce avec 95
50
décibels
50 mètres carrés facilement.
50 mètres carrés facilement.
Après, c'est ce qu'on veut écouter, mais oui, c'est vrai oui. Si j'écoute du jazz, je suis comme
mais
ça.
Mais pour s'ambiancer même dans une pièce, dans une grande pièce, ça peut le faire.
95 dB, c'est déjà fort. Hein. Ouais. Pour donner un ordre d'idée, un bureau classique, on est autour des 60-70 dB. 60-70 dB, et tous les 3 dB, on double le son.
Ah oui,
là, on est à 95 dB. Donc oui, c'est pas mal du tout.
MCR N670D.
De chez Yamaha.
Donc elle a toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées.
Et elle a l'application Yamaha Multicast qui permet justement de piloter sa mini-chaîne avec son smartphone et de pouvoir diffuser les choses de manière très fluide.
Oui.
Autre produit qu'on a sélectionné vraiment dans les très bons rapports qualité-prix, et c'est pas une petite marque, c'est la marque Denon, une marque qu'on adore au Labo Fnac parce qu'elle est emblématique et que c'est vraiment des tops au niveau de la hi-fi, c'est la Denon DM41DAB qui elle a obtenu 4 étoiles mais qui est à 400€.
Ah, bon rapport qualité-prix alors.
Elle est à moins de 500€, enfin elle est à 399,99€ pour être même précis, sachant que la Yamaha que j'ai citée précédemment est à 850€. Donc là, c'est un petit bout, mais c'est vraiment pour avoir le meilleur de cette catégorie.
C'est étonnant de voir ces marques, hein, Yamaha et Denon, qui sont quasi inexistantes en fait des autres marchés, et qui sont toujours là finalement avec des produits un peu historiques.
C'est du savoir-faire, qu'ils veulent garder. Ils y arrivent en plus. On a d'autres marques qui existent sur la chaîne hi-fi. On a du Philips, du JVC, on a
Sony, du Sony encore aussi. Là-dessus ou pas?
On a du Sony aussi, mais voilà.
C'est vraiment votre sélection.
Voilà, c'est ça. Il y a des bons produits partout. Encore une fois, si vous voulez choisir une mini-chaîne, regardez ces petits éléments-là, hein, des éléments de connectivité, des éléments liés aux composants. N'hésitez pas à la retourner et regardez comment les choses sont conçues. Ça vous donnera une idée de la qualité d'ensemble du produit.
Et bien voilà, un produit qui renaît de ses cendres et que vous pouvez retrouver dans les magasins d'électronique et d'audio et de vidéo, et notamment à la Fnac et le Labo, les tests, donc ces mini-chaînes. Merci Lionel Costa, donc responsable du développement du Labo FNAC. Et c'est avec tous les conseils de Lionel que se termine ce De quoi je me mêle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment un excellent week-end. Merci de nous écouter et de nous regarder le week-end sur BFM Business, mais aussi sur YouTube et en podcast, bien évidemment. On sera là la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.